Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour ce nouvel éclairage de l'économie financière qui me donne le grand plaisir de retrouver le professeur et grand économiste Olivier Pastret. Olivier Pastret, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette nouvelle rencontre sur notre antenne sur le thème central de la crise financière, économique certainement aussi, et peut-être même de société. C'est ce que nous verrons, tout le monde, à travers cette crise, avec une certaine angoisse. Votre analyse de grands experts, et tout particulièrement du secteur bancaire, dont vous êtes bien entendu un éminent spécialiste, est attendue à un double titre. D'une part par cette expertise, mais aussi parce que vous êtes aux manettes. En première ligne, vous présidez une banque. Et donc, vous connaissez les deux côtés du problème. Je rappelle, en outre, extrêmement brièvement, que vous avez de nombreux titres. Vous êtes directeur de collection à la Revue d'économie financière. Vous êtes conseiller scientifique de l'AMF et un auteur prolifique, puisque vous avez fait paraître chez Perrin, avec Jean-Marc Sylvestre, le roman vrai de la crise financière qui a reçu un accueil remarqué par le grand public et les professionnels.
Et qui est maintenant en poche.
Et qui est maintenant en poche, en plus.
Alors, huit jours.
Huit jours, bon,
donc, moins cher.
Moins cher, d'accord. Un titre prémonitoire, donc, puisque l'impensable est devenu réalité. Alors, cher Olivier Pastret, Jean-Claude Trichet, le grand patron de la BCE, vient de déclarer, pourtant on connaît sa grande prudence, que cette crise est la pire que le monde ait connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui, décrypté, veut probablement dire que celle de 1929 était pire encore. Alors, est-ce que c'est votre avis ?
Il est trop tôt pour le dire. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la crise actuelle, dans ses ressorts, n'a strictement rien à voir avec la crise de 1929. Pour deux raisons très simples. La première, c'est que la crise de 1929, le krach de 1929 à la Bourse de New York, qui s'est après propagé à l'ensemble du monde, mais qui a éclaté à la Bourse de New York, a éclaté dans une économie mondiale en décroissance, en crise. La crise de l'économie réelle préexistait à la crise boursière et à la crise financière, alors qu'aujourd'hui, on est encore, pour vous que ça dure, comme disait la mère de Napoléon, on est encore dans un environnement économique mondial de croissance. Alors la croissance a été révisée à la baisse, mais elle est encore relativement forte. C'est la première différence avec la crise de 29. La deuxième différence, c'est que les banques centrales ont vécu la crise de 29 et donc on en tirait les conséquences. Et alors qu'elles avaient fermé tous les robinets dans les années 30, les robinets du crédit, aujourd'hui elles les ouvrent. Et donc la réactivité des banques centrales est une autre différence avec la crise de 29.
D'accord. Mais par contre, l'ampleur de la crise est quand même voisine.
Soyons modestes. La période nécessite d'être modeste. On n'en sait rien. On verra quel est l'effet des mesures qui ont été prises, quelles vont être les nouvelles mesures qui seront prises. On va sûrement en parler. Et en fonction de ça, on pourra se faire une idée de la gravité de la crise. Il est clair que cette crise n'a aucun rapport avec les crisettes, on va appeler ça comme ça, c'est un nouveau concept, les petites crises.
Qui arrivent tous les 5 ans.
Qui ont jalonné l'histoire de l'économie de marché depuis la crise, le krach de 87, la crise Savings and Loans aux États-Unis, LTCM, la bulle Internet, tout ça c'est des crisettes. C'est pas du tout de même ampleur que la crise actuelle, parce que c'était des crises qui étaient soit géographiquement, je prends la crise thaïlandaise de 98, soit sectoriellement, je parle de la crise Internet, relativement limitée. Aujourd'hui, c'est une crise qui est une crise globale.
Alors, une crise globale et avec un accent particulier sur le secteur bancaire qui a connu d'abord les subprimes, ces fameux crédits pourris américains, et qui est devenu en fait gigantesque, se propageant de proche en proche. Et chaque jour apporte la confirmation de nouvelles contaminations. Alors en France, les grandes banques nationales qui paraissaient avoir été plus vertueuses viennent littéralement d'être massacrées en bourse, y compris les meilleures, et elles sont par ailleurs bousculées par l'État qui les soupçonne de frilosité dans la mise à disposition des crédits à l'économie. Le médiateur du crédit, René Ricol, dont on connaît le dynamisme, est très actif sur ce sujet, dans la logique, bien entendu, du plan colossal de sauvetage financier du secteur bancaire qui a été mis en place. Alors, comment comprendre cette chute historique des valeurs des banques nationales, dont l'une au moins a encore une notation parmi les meilleures mondiales, la BNP pour ne pas la nommer, et qui en fait se retrouve confrontée aux affres de la défiance. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, en fait, ce plan gigantesque a des effets pervers dans sa mise en place en créant des distorsions de concurrence qui sont particulièrement néfastes pour les établissements qui, au départ, étaient les plus vertueux. C'est un petit peu paradoxal, mais c'est un peu la question que je me pose.
Oui, mais c'est...
Et que je vous pose.
Oui, vous ne devriez pas dire la question que je vous pose, vous devriez dire les questions. Parce que
dans votre
présentation, il y a des questions qui sont de nature assez différente. Je vais essayer de répondre par bloc. Premier bloc, quand on compare l'ensemble des systèmes bancaires à l'échelle mondiale, les banques françaises sont parmi les plus solides. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas fait de bêtises. Et quand je dis fait des bêtises, c'est pas les anecdotes comme Kerviel ou les pertes dans telle ou telle banque, parce que ça c'est des
c'est un défaut de contrôle sur les marchés.
Mais elles ont globalement fait des bêtises en achetant des produits qu'on appelle toxiques, alors qu'elles n'étaient pas obligées de le faire. Mais sur le fond, quand on regarde les ratios de fonds propres, les vrais indicateurs de solidité bancaire, les banques françaises sont parmi les plus solides au monde et incontestablement, les banques européennes sont infiniment plus solides que les banques américaines qui sont extrêmement fragiles. C'est pour ça que la crise a éclaté.
Enfin, on est heureux de l'entendre parce qu'avec les dernières variations des marchés, on commençait à se demander s'il n'y avait pas des choses...
Oui,
différente que ce qu'on a de la première analyse.
C'est un deuxième volet de votre question, mais c'est presque une deuxième question. la défiance. On est aujourd'hui dans une situation de défiance croissante à l'égard de toutes les banques, quelles qu'elles soient. Et en termes de valeur boursière, on voit des banques qui sont fondamentalement saines, qui sont massacrées en bourse, autant que des banques qui ont eu quand même des comportements plus coupables. Je vais prendre un seul exemple qui est aveuglant, Dexia. Peu de gens le savent, a été classée au mois de mai ou de juin 2008, donc cette année, 7e banque la plus solide du monde. Ça ne l'a pas empêché de plonger. Donc, il y a une volatilité sur les marchés qui fait qu'on pénalise des banques relativement saines comme les banques françaises. Troisième sujet que vous avez abordé. Il y en a un quatrième après. Le caractère, et je vous cite, gigantesque des efforts consentis en faveur du secteur bancaire. Je ne considère pas que les 360 milliards de dollars, et je considère que le gouvernement français a très mal communiqué, a très mal communiqué, les 360 milliards de dollars que l'on oppose au 1,5 milliard du RSA, est un investissement gigantesque pour deux raisons. D'abord parce qu'il se décompose en deux parties, 320 milliards, pardon de faire un peu de pédagogie.
Mais c'est très important.
Et je pense que la pédagogie est absolument essentielle si on ne veut pas que la crise dégénère. Il y a donc 320 milliards qui sont simplement une offre de liquidité, c'est-à-dire la possibilité pour le banque de prendre de l'argent à l'État et de lui rendre.
C'est un emprunt, en fait.
Il n'y a aucun coût budgétaire pour l'État, pratiquement aucun risque, une rémunération. Donc l'État sera in fine bénéficiaire de cette partie de l'opération. Et il y a ensuite 40 milliards qui sont consacrés potentiellement à l'augmentation des fonds propres, pas du capital, des fonds propres des banques. Et la France a choisi une voie originale, on peut être pour ou être contre, moi je suis plutôt pour, qui est de dire on ne va pas nationaliser les banques, on va investir, disons, en titres obligataires. C'est plus compliqué que ça, mais ça revient à ça, qui fait que l'État deviendra un partenaire de fonds propres des banques, sans pour autant être actionnaire et rentrer dans une spirale qui est probablement pas la meilleure. L'objectif, c'est de consolider la situation du système bancaire français pour consolider l'économie française. Et de ce point de vue-là, l'État gère bien ses capitaux et conforte les banques à un coût budgétaire qui est nul, voire même...
Peut-être avec un retour sur investissement.
Avec un retour sur investissement non marginal. Quatrième sujet que vous avez abordé, Ricol.
La pédagogie, c'est là.
Ricol, est-ce que les banques, quand même à qui on a permis de continuer à fonctionner, renvoient l'ascenseur, disons ça comme ça, et continuent à financer l'économie? Je suis sur ce point à la fois optimiste et pessimiste. Je suis optimiste parce que le chef de l'État a tapé les poings sur la table, a fixé des objectifs de croissance des crédits de 3 à 4 %. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, à travers ce que nous dit le médiateur, René Ricol, c'est plutôt une pas trop mauvaise gestion, pas trop de plaintes. Ça, c'est la partie optimiste. La partie pessimiste, c'est que moi, je dis, et c'était un peu l'objet du livre qu'on a écrit avec Jean-Marc Sylvestre, depuis maintenant 8, 9, 10 mois, il va y avoir un credit crunch, c'est-à-dire un resserrement du crédit. Ce resserrement du crédit, quand vous discutez avec des chefs d'entreprise, petites entreprises ou grandes entreprises, on le voit. Et donc, je pense quand même qu'il va falloir que les banques fassent front à leurs responsabilités et ne ferment pas ou ne réduisent pas le flux du crédit, parce que sinon, on va passer d'une crise économique grave à une crise économique gravissime.
D'accord, d'accord. Très bien. Donc, merci pour cette précision. Et c'est vrai qu'en termes de communication, il faut toujours revenir un peu à l'ouvrage. Voilà pour ce qui concerne, si je résume votre propos, vous dites que les choses sont sérieuses, mais qu'au niveau français, on devrait à un moment donné retrouver la raison et voir les banques françaises telles qu'elles sont réellement, c'est-à-dire plutôt plus solides, françaises et européennes, que la moyenne. Alors, néanmoins, il faut déjà commencer à penser, si on en est à ce stade du raisonnement, à la sortie de crise, et en tout cas aux leçons que l'on peut tirer de cette crise. Et vous, vous êtes un partisan d'une reconstruction d'une gouvernance financière mondiale, et vous donnez un certain nombre de pistes dans vos différentes chroniques. Alors, je pense qu'on va aborder ce sujet après avoir marqué une pause de quelques minutes. Ce sera le point central de cette intervention. Merci à vous.
Homme politique, écrivain, journaliste et même rugbyman, retrouvez le parcours exceptionnel d'Arthur Comte, un homme libre raconté par sa fille Dominique Bonnat. Entre les couloirs de l'Assemblée ou de l'ORTF, plongez dans la culture catalane. Téléchargez dès à présent l'émission consacrée à Arthur Comte sur canalacademy.com.
Olivier Pastret, on vous retrouve après ce court répit pour revenir donc à cette question centrale qui est la sortie d'après-crise et donc la gouvernance financière mondiale. Vous affirmez que vous restez très confiant dans l'efficacité d'une politique monétaire. Quelles en sont les grandes lignes, en tout cas si on a un peu perdu le fil sur ce sujet?
Oui, c'est une condition nécessaire et non suffisante. Je vais répondre en disant deux mots du G20 qui vient de se dérouler. Alors, il a été de bon ton de critiquer ce G20 en disant qu'il n'en est rien sorti. C'est plus compliqué que ça. Le côté très positif du G20, c'est que manifestement, les dirigeants, probablement à la suite de la faillite de Lehman Brothers qui a provoqué un électrochoc, ont pris conscience de la situation exacte de la planète. La situation exacte de la planète, elle est extrêmement simple, et je le dis toujours de la même façon, avec la même phrase. On a accepté pendant 10 ans que les paysans chinois financent les retraités californiens. C'est-à-dire que des pays qui exportaient, comme la Chine, ou qui avaient des réserves de change parce qu'ils avaient du pétrole, comme les pays du Moyen-Orient, achètent des bons du trésor américain et financent les bêtises du gouvernement américain. Cet équilibre est extrêmement fragile. Et donc, penser que l'on puisse aujourd'hui régler les problèmes de la crise, et il faut commencer par là, à 7 ou à 8, le G7, le G8, c'est-à-dire entre nous, les pays du Nord, c'est impensable. Ceux qui peuvent nous aider à sortir de la crise, c'est la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, les pays qui ont des excédents de réserves de change et qui peuvent relancer, alors à la fois stabiliser la politique monétaire, et faire une relance budgétaire, parce que alors là où ça,
la question se pose aussi.
Voilà, ça aussi, je le dis depuis 6 mois, on peut tourner le problème, c'est comme le Rubik's Cube, quand on n'est pas doué, ce qui est mon cas, on peut tourner le truc dans tous les sens, on n'y arrive pas. La solution au Rubik's Cube mondial, aujourd'hui, c'est clairement une relance budgétaire concertée, et de ce point de vue, le G20 est une bonne nouvelle. Alors, ceci posé, il y a deux versions de la crise. Je suis un peu caricatural, mais ça permet d'être clair. Ceux qui disent c'est la faute aux banques, c'est la faute aux agences de notation, c'est la faute à Greenspan, après avoir encensé Greenspan, c'est un peu rigolo. Je ne crois pas que ça soit la faute de X, Y, Z, W. Je pense que c'est une faute collective. On a, pendant 10 ans, dérégulé à un rythme et dans des conditions telles qu'on a un système qui n'a plus de pilote dans l'avion, on va dire ça comme ça. Et donc, il faut tout re-réguler, pas plus réguler, et c'est un risque, la surrégulation. Il ne faut pas plus réguler, il faut mieux réguler, donc remettre à plat tous les dispositifs.
Et notamment par rapport aux banques centrales, vous rappeliez récemment que les banques centrales devraient avoir des interventions, et en particulier peut-être la Banque européenne, plus graduées, c'est-à-dire un peu plus ciblées, un peu moins globales, comme certains instruments d'ailleurs dans le passé. Mais là, on rentre un peu dans la technique. On va essayer
d'être... Oui, mais la technique, on peut la simplifier. Ouais. Vous avez raison, c'est une question fondamentale. On est en train aujourd'hui de réviser un certain nombre de paradigmes. C'est en cela que votre citation de Jean-Claude Trichet était parfaitement adaptée. On est dans une crise extrêmement grave et donc il va falloir réviser un certain nombre de concepts. Dans ce domaine, je prends juste un exemple avant de répondre précisément à votre question. Est-ce qu'on pouvait imaginer il y a 6 mois que Gordon Brown, qui est quand même un libéral fondamentalement, que George Bush, qui est un ultra-libéral fondamentalement, allaient nationaliser leurs banques ? C'était inimaginable. Bon. Ils l'ont fait, ils ont bien fait. Sinon, ça aurait été encore plus grave. Et donc, ça prouve que tout le monde doit réviser ses leçons et ses concepts. Et dans ce domaine-là, il est clair que les banques centrales doivent adopter des politiques plus sélectives, plus brutales, qui, au moins dans un premier temps, doivent conduire à une baisse des taux. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, la situation de la BCE est un peu atypique.
Et là, vous dites que probablement, une façon pour donner plus de marge de manœuvre à la BCE, ça serait de revoir ses statuts, peut-être.
Oui, parce qu'il est trop facile de critiquer Jean-Claude Trichet, le pauvre Jean-Claude Trichet.
Il est au milieu du feu.
Ni trop d'honneur, ni trop d'indignité, comme chacun d'entre nous. et donc, il ne fait qu'appliquer la feuille de route. C'est plus que la feuille de route, c'est les statuts de la Banque Centrale Européenne qui lui donnent l'ordre de ne regarder que l'inflation. Il n'a pas le droit de regarder la croissance. C'est une différence fondamentale entre la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale Américaine, qui, elle, doit regarder à la fois l'inflation et la croissance. Et donc, dans le comportement de Jean-Claude Trichet, il y a une part qui tient simplement au statut de la BCE qu'il faut d'une manière ou d'une autre réformer. Et j'y crois beaucoup, pardon de faire une petite incise sur un sujet presque philosophique, en tout cas théorique, je pense qu'il faut que le droit, dans une période de crise, accepte de ne pas être intangible. Je m'explique, je pense qu'on doit pouvoir modifier les règles temporairement. Et l'exemple de Bush et de Brown en matière de nationalisation, franchement, ce n'est pas leur tasse de thé. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils pensaient que c'était temporaire. Je pense qu'on devrait pouvoir suspendre quelques règles qui sont fixées aujourd'hui à la BCE pour essayer de sortir de la crise.
Alors l'autre pendant sur les règles, ce sont les normes comptables, financières et autres IFRS. Là, il y a eu une déclaration à l'issue du G20 qui semble montrer que cette nouvelle gouvernance est prête à avancer très largement sur ce plan. Vous y voyez l'éventualité d'une reprise en main de cette gouvernance à travers la modification des normes ?
Il y a deux niveaux. Je vous l'ai dit, moi, ma conviction profonde, c'est que c'est une crise globale, c'est-à-dire qu'il faut la régler de façon manière globale. Ce qui veut dire quoi ? Au niveau microéconomique des entreprises, il faut modifier les règles de rémunération dans les banques, les modes de contrôle interne, tout ce qu'on a vu défaillir. Il faut, au niveau que j'appellerais de mésoéconomique, c'est-à-dire entre la micro et la macro, faire un immense ménage. Les normes IFRS sont pousses au crime. Il faut les remettre en cause.
Cycliques, contracycliques, etc.
Elles sont archi-pro-cycliques.
Elles sont archi-pro-cycliques.
Et donc, il faut les suspendre, les réviser, peut-être plus brutalement que ne l'évoque le communiqué du G20. Mais ce qui est vrai pour les normes IFRS, c'est vrai pour les normes prudentielles, ce qu'on appelle Bâle 2, qui s'applique aux banques, c'est vrai pour les agences de notation, c'est vrai pour certains compartiments d'activité bancaire. Il faut vraiment là
reprendre. Quoi.
Et puis, il faut faire un ménage au niveau macroéconomique de la gouvernance mondiale. Et là, il y a du boulot.
Mais alors, on arrive déjà au scénario de sortie de crise, ce qui veut dire qu'on reste encore un petit peu optimiste. Il y a effectivement deux scénarios. Il y en a un scénario particulièrement noir qui serait la reprise du modèle de crise japonais, c'est-à-dire entre 10 et 15 ans et encore, on ne sait pas si c'est suffisant. Et d'autres auteurs, d'autres analystes considèrent que, après tout, c'est une crise, bien sûr, d'une ampleur importante, mais c'est une crise, par ailleurs, assez voisine des autres grandes crises qui, elles, ont lieu une fois tous les 10 ans, et que, avec cette nouvelle solidarité, cette nouvelle lucidité, cette cohérence dans les actions, on pourrait peut-être retrouver dans 1 an, 2 ans des niveaux d'activité et de croissance un peu plus intéressants. Alors, vous, quel est votre scénario ? C'est peut-être
la
moyenne.
Je ne crois pas un quart de seconde au scénario rose. Oui. Je ne dis pas que je crois au scénario catastrophe, mais je ne crois pas un quart de seconde au scénario rose. Parce qu'on n'a que des mauvaises nouvelles. Quelqu'un me disait très récemment, et j'ai trouvé que c'était alors à la fois faux et intéressant, on a beaucoup pleuré sur la faillite d'LTCM à la fin des années 90. Aujourd'hui, on a un LTCM par jour. Évidemment exagéré.
C'est mais, un peu gros, mais enfin, c'est un peu ça.
Mais c'est pas loin d'être ça. Donc, je veux dire, il faut arrêter avec le scénario rose, il n'a aucune chance de se produire. Alors, comment éviter le scénario catastrophe? Il y a deux concepts, et c'est des concepts très simples. Je vais prendre une seconde pour les expliquer, qui, à mon avis, vont jouer un rôle essentiel dans l'avenir, et les deux sont liés. Le premier concept, c'est le concept du découplage. Pendant 2 ans, on nous a bassinés en nous disant, vous inquiétez pas, il y a une crise au nord, dans les pays du nord, mais le sud va pouvoir, par son dynamisme, la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, va pouvoir tirer la croissance mondiale. Je suis très modeste, je ne dis pas que cette thèse du découplage est fausse, je dis qu'elle mérite d'être réfléchie, puisque ces pays ont quand même forgé leur croissance sur l'exportation. Pour exporter, si mes souvenirs sont exacts, et je pense que vous ne contredirez pas, il faut des gens qui importent.
Je n'essaierai pas.
Non, il faut qu'il y ait des gens qui importent. Si les pays du nord n'importent plus, ça va quand même beaucoup entamer la croissance des pays émergents supposés ne supporter la croissance mondiale. Le deuxième concept, et les deux, vous allez le voir, enfin, c'est évident, sont liés, c'est protectionnisme. Alors, moi, je me suis fait traiter de Ouistiti pendant quelques mois, et je dis Ouistiti pour ne pas dire,
pour dire
autre chose, parce que je disais il va y avoir un credit crunch. J'ai malheureusement eu raison, il ne fallait pas être prix Nobel de l'économie pour dire ça, c'était absolument évident. Aujourd'hui, je dis, attention, il y a un risque protectionniste très fort. Je ne suis pas encore autant traité de Ouistiti que pour le credit crunch, mais je pense que ça va venir. Or, c'est un vrai sujet. Et alors, c'est vrai que s'il y a protectionnisme, on sait quand ça s'arrête, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça s'arrête. Et ça, c'est gravissime. Et là, il faut relancer l'OMC, quelles que soient les modalités pour relancer l'OMC. Il faut faire de la relance budgétaire pour mettre un peu d'huile dans les rouages. Et c'est clair que s'il y avait un protectionnisme croissant, ça serait à ce moment-là, non pas une récession, mais une dépression. Et je prends juste un exemple. Oui. Le plan massif en faveur de l'industrie automobile américain, si ce n'est pas de la protection, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, qu'on ne me dise pas qu'il n'y en a pas, qu'il n'y a pas d'épulsion. Et on a eu la traduction de ce que je viens de dire immédiate, puisque immédiatement, les constructeurs automobiles européens ont demandé aussi une protection. Dans ce domaine-là, il faut être extrêmement prudent, parce qu'encore une fois, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça s'arrête.
Vous avez fait allusion au secteur automobile. Alors, c'est vrai que c'est un problème qui est américain. Bien entendu, les trois bigs sont au premier rang. Mais c'est aussi un problème qui touche l'Europe et en particulier la France, qui a peut-être pris un retard par rapport aux nouvelles technologies, notamment sur l'énergie nouvelle. C'est un sujet qui vous préoccupe pour notre France, si je puis dire.
Il y a deux sujets. L'un, un sujet très général sur la désindustrialisation des pays développés.
Absolument. Bon.
Ça, il va falloir s'y faire. Il est clair que
c'est le sens de l'histoire.
C'est le sens de l'histoire, mais ne soyons absolument pas pessimistes, et je ne suis pas pessimiste. C'est le sens de l'histoire, mais l'histoire montre aussi que la révolution technologique permanente dans les pays du Nord permet de se développer, et je pense que les États-Unis vont se développer dans les nanotechnologies, dans la biotechnologie, dans les énergies renouvelables, dans un certain nombre de secteurs où ils vont créer les emplois et se réindustrialiser. Mais le mouvement de désindustrialisation sur les industries textiles, automobiles et disons les industries moyennes gamme est clairement fait. Alors, dans le cas de l'automobile, il est clair que l'Europe est aussi menacée. Et même Toyota, qui est considéré comme le modèle absolu, est aussi menacé. Quand il y a une dépression mondiale, il n'y a aucun constructeur automobile qui peut se dire que ce n'est pas grave. L'Europe est dans une situation intermédiaire par rapport aux constructeurs américains qui ont quand même fait, en gros, n'importe quoi. Et je suis très frappé. Il faut appeler un chat en économie si on n'y arrive pas. L'industrie automobile américaine a refusé d'investir pendant de nombreuses années. Bon, elle en paie le prix, c'est normal.
Et elle a aussi sur le dos un modèle social, entre guillemets, qui coûte énormément cher. Alors ça aussi, c'est probablement lourd de conséquences.
Un seul chiffre pour répondre à votre question. Le taux d'endettement moyen des Américains est de $46 000. Enfin, c'est considérable. Les Américains, et l'État américain aussi, mais surtout les Américains, vivent à crédit. Vivent à crédit en achetant des très grosses voitures, voiture qui pollue beaucoup, qui consomme beaucoup d'énergie. C'est un fait, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un choix de société. Il est clair qu'en la période actuelle, ce type de modèle va être pénalisé.
Et justement, alors, sur le problème de la dette, on rappelle assez souvent que la France est particulièrement endettée, mais c'est sa dette publique qui est élevée, parce que sa dette privée, elle est très... Enfin, vous disiez, donniez le chiffre de 45 000 dollars, je crois, tout à l'heure, pour les Américains, mais en France, l'endettement privé doit être quelque chose vers comme 10 000 ou 15 000. Enfin.
Et comparativement,
enfin, extrêmement
comparativement faible. Il ne faudrait pas aller trop loin dans ce domaine-là, parce
bien
que
sûr.
Je vais dire les choses... En théorie économique, ce que je vais dire n'est pas totalement verrouillé, mais quand même, ce n'est pas faux. C'est le faible endettement privé qui permet le fort endettement public.
Mais c'est
alors,
ça.
Ce n'est
pas
totalement vérifié
tout
historiquement,
à fait, tout
géographiquement, parce qu'aux États-Unis, ils ont les deux et qu'il y a des pays où il n'y a ni l'un ni l'autre. Mais en gros, oui, on est en France relativement peu endetté à titre privé.
Je dis ça parce qu'il y a un certain discours à l'heure actuelle sur les sociétés de crédit à la consommation qui... Et quand même un petit peu à contresens. Mais enfin bon, c'est un autre sujet.
De revenir sur ce point, parce qu'il est important. Il y a deux choses. Je crois qu'on peut développer le crédit à la consommation en France de manière significative. On est encore une fois très en retard.
Tout à fait.
Par contre, il y a un vrai problème gravissime que découvre la crise, c'est le fait que c'est les pauvres, ménages pauvres ou les entreprises pauvres qui vont payer.
Et
les travailleurs pauvres aussi, bien
sûr. C'est encore pire.
Et donc là, il y a un vrai sujet. L'exclusion bancaire, c'est un vrai sujet. Il ne faut pas développer le crédit à la consommation qu'on peut et qu'on doit développer n'importe comment, parce que sinon, ça s'opérera socialement.
Eh bien, Olivier Pastré, nous avons le temps à passer déjà très très vite. C'est un plaisir de toujours de vous entendre. Je crois qu'on a à peu près balayé les différents aspects et questions qui se posent sur la crise financière. Il y en a probablement d'autres et il y en aura certainement d'autres encore dans les jours qui viennent ou les mois qui viennent. Je voudrais simplement, avant que nous mettions un terme à cet entretien, rappeler ce que vous écriviez avec Jean-Marc Sylvestre dans votre remarquable ouvrage « Le roman vrai de la crise financière » qui donnera le ton de cet ouvrage qui sort donc, vous l'avez dit tout à l'heure, en livre de poche...
qui est sorti il y a 8 jours.
Qui est donc sorti il y a 8 jours. Alors, c'est dans votre conclusion. À quand la prochaine bulle ? Soit nous refusons de regarder la réalité en face, nous apposons quelques rustines sur les accros les plus visibles et nous prions pour que cela tienne jusqu'à l'éclatement de la prochaine bulle. Soit, deuxième solution, nous tournons le dos à l'hypocrisie ambiante et nous considérons que cette crise est salutaire, qu'elle a permis de redonner au risque bancaire, risque dont les banques n'auraient jamais dû se défausser, le rôle qui est le sien, qu'elle a permis de remettre les pendules à l'heure quant aux pratiques de certains opérateurs publics comme privés, qu'elle a mis en lumière certains dysfonctionnements dans la régulation financière mondiale. Il y a lieu alors d'espérer. Eh bien écoutez, c'est sur cet espoir inquiet, comme disait Turgot, que nous allons conclure cet entretien et qui, comme d'habitude, était absolument un grand plaisir. Merci à vous Olivier Pastré, encore bravo pour toutes vos activités de patron de banque, d'économiste, de journaliste, car vous êtes aussi un confrère. On aura grand plaisir à vous retrouver prochainement sur cette antenne. Merci à vous Olivier.
Merci.